se conçoit l'olympisme moderne comme constitué en son centre par une sorte d'altise morale, de bourbe sacrée, où sont réunis pour affronter leurs forces les concurrents des sports virils par excellence, des sports qui visent la défense de l'homme, sa maîtrise sur lui-même, sur le péril, sur les éléments, sur l'animal, sur la vie.
Dans 100 jours, très précisément, débutent les Jeux Olympiques de Paris dans cette ville, chère au baron Pierre de Coubertin, inventeur de ces Jeux modernes. 100 jours, suffisamment pour que les athlètes se préparent et pour que nous prenions le temps de fouiner dans les archives de ces Jeux et d'y voir apparaître, aux surprises, le nom de Paul Claudel, Jean Giraudoux ou Paul Valéry, écrivain célèbre du début du XXe siècle. Louis Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Cette surprise, on vous la doit, car dans votre livre « Les Jeux Olympiques de littérature », vous racontez comment, à l'origine, donc au début du XXe siècle, les écrivains ont été embarqués dans cette aventure. Comment et pourquoi ?
Oui, c'est une histoire presque oubliée. On a oublié que Coubertin ne voyait pas les Jeux Olympiques comme de simples événements athlétiques, mais qu'il voulait en faire quelque chose de sacré, un peu à la mode antique, et qu'il était essentiel pour lui d'associer les écrivains et les artistes. Si vous voulez, on connaît un peu l'expression du poète latin Juvénal, un esprit saint dans un corps saint. Lui voulait la transformer en un esprit ardent dans un corps musclé, mais avec cette idée de développer en même temps le muscle et l'esprit. Il faut se souvenir que Coubertin est certes champion de tir, mais est aussi un artiste, il est fils de peintre, et il a écrit un roman qui est un roman d'une qualité médiocre, qui s'appelle le roman d'un rallier, où il parle d'un marquis parti aux États-Unis, découvrir des jeunes femmes au pot hâlé par les séjours aux Bahamas, et qui, dans ses cercles un peu privilégiés, va se convertir à l'idée républicaine. Et donc Coubertin souhaite associer les écrivains et les artistes, et pour ça va créer des concours, des épreuves d'art et de littérature.
Alors, en quoi vont consister ces concours, sachant qu'il y en aura 5, architecture, sculpture, peinture, littérature et musique ?
Et alors, ça commence, si vous voulez, Coubertin veut lancer ça dès 1908, il a du mal. Et donc, on va avoir des concours de 1912 à 1948. Et chaque fois, on va avoir un certain nombre d'artistes qui vont proposer des œuvres toujours liées à l'idéal sportif ou à l'idée sportive. Alors, on comprend assez facilement ce que ça peut donner pour la sculpture ou la littérature, un peu moins pour la musique. Évidemment, ça sera un des problèmes, d'ailleurs, de ces épreuves.
Mais alors, il ne s'agit pas d'écrire un roman ou de faire une sculpture en direct. Hein. On n'est pas à la dictée de Bernard Pivot. Il s'agit, en revanche, de proposer des œuvres qui vont être sélectionnées par un jury prestigieux et international pour les Jeux Olympiques.
Oui, alors il y aura des évolutions entre 1912 et 1948. Mais oui, c'est des œuvres qui font moins de 100 pages en littérature, qui sont pour certaines inédites, pour d'autres viennent de paraître, et qui, en effet, je me souviens que Georges Simenon, le romancier, avait été enfermé dans une cage pour écrire un livre en 24 heures. Donc, c'est pas ce genre d'épreuve-là. Mais ce sont quand même des épreuves. Faut bien le comprendre qu'il y a un podium, il y a des médailles. Les vainqueurs des concours d'art et de littérature sont des médaillés olympiques comme les autres.
Mais les jurys sont plus connus que les lauréats. Quand je cite Claudel, Paul Valéry ou Jean Giraudoux, ils font partie des jurés, ils ne font pas partie des candidats et des compétiteurs.
Alors, je parle essentiellement dans ce livre, alors je parle de la création de ces concours, mais je me concentre sur les Jeux de Paris en 1924, parce que c'est sans doute le moment où ces concours d'art et de littérature ont été le plus susceptibles de fonctionner. parce que c'est l'histoire d'un échec, hein, ces concours d'art. C'est vrai qu'en sport, on aime beaucoup les vainqueurs. En littérature, on aime bien aussi les échecs. Ça raconte beaucoup de choses sur ce qu'était une époque, ce qu'était un idéal. Et alors donc, en 1924, à Paris, on décide de faire extrêmement bien les choses. Et donc, on recrute des jurys extrêmement prestigieux pour toutes les compétitions. On a en musique Bartok, Stravinsky, Forêt. En peinture, on a Fujita, grand peintre de l'époque. On va avoir Bourdelle et Maillol, grands sculpteurs aussi de l'époque en sculpture. Et en littérature, on a une sorte de panorama de tout ce qui est la littérature mondiale notable, hors avant-garde. Hein, parce que, évidemment, c'est une littérature presque déjà du 19e siècle dont on parle.
Mais avec des prix Nobel, quand même.
Avec des prix Nobel. On a deux prix Nobel parmi les jurés, qui sont Selma Lagerlöf, certains connaissent peut-être, Le merveilleux voyage de Nils Holgersson, ce voyage d'un enfant sur un jar qui a vraiment charmé des générations d'étudiants. Nous avons Maeterlinck, poète belge, mais nous avons aussi, donc vous citiez Paul Claudel, Gabriele D'Annunzio, qui est peut-être moins connu en France, mais qui est un très grand poète italien décadent et qui a eu une importance politique. Hein. D'Annunzio fait partie des gens qui a vraiment influencé le fascisme des années 20, le fascisme italien. Nous allons avoir Edith Wharton, la romancière new-yorkaise. Enfin, vous voyez, beaucoup...
Tous très connus, mais les compétiteurs, en revanche...
Alors, je dirais pas
on
cela.
On n'en connaît plus aucun.
C'est pas vrai. Oh. Non, vous exagérez. Non, il y a quand même... Alors, si vous voulez, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des compétiteurs connus, mais ils ne vont pas être récompensés.
Monterland.
Alors, en littérature, on a deux auteurs. Alors, Robert Graves, ce nom dit peut-être peu de choses au public français, mais c'est un auteur, un poète anglais qui a failli avoir le Nobel quelques années plus tard, qui a écrit ce diptyque romanesque qui s'appelle Moi, Claude, qui est un des grands romans historiques du XXe siècle. Et on a un jeune, Henri de Monterland, qui propose la première partie de ces Olympiques, qui est vraiment le best-seller sportif de l'époque. Alors, évidemment, Monterland, aujourd'hui, est dans un purgatoire. Mais si les concours avaient finalement choisi ces compétiteurs-là, sans doute ne les aurait-on pas oubliés.
Mais de vous à moi, quand même, Louis Chevalier, on ne les connaît pas. Tous les autres, ils sont totalement inconnus. Ils sont passés aux oubliettes.
Oui, ils sont passés aux oubliettes.
Vous dites, c'est vrai. C'est le récit d'un échec.
C'est le récit d'un échec. C'est une façon de voir aussi comment certaines gloires passées littéraires disparaissent. C'est se rendre compte combien c'est difficile aussi de trouver les talents de demain. Hein, j'ai été éditeur pendant un certain temps et je sais que, vous voyez, lorsqu'on se retrouve devant un manuscrit, et ben, lorsqu'on est vierge de toute réception critique, et ben, c'est pas facile. Et ben, c'est ce qui se passe là. On a beau avoir des très grands écrivains parmi les jurés, et ben, ils ne verront pas l'originalité de Monterland, qui est une originalité particulière. Parce que Monterland, et c'est d'ailleurs ce qui a contribué peut-être au succès des Olympiques, c'est un écrivain belliciste. C'est un écrivain qui compare le sport à la guerre. Il compare un capitaine d'équipe de foot à Pétain commandant ses troupes.
Les Jeux Olympiques de littérature, un aspect méconnu des JO que l'on découvre, grâce à vous, Louis Chevalier. C'est aussi toute une époque que vous nous racontez dans ce livre, c'est-à-dire l'Europe en 1920 et Paris en 1924. La suite après Thomas de Pourquery et Clara Isée, une chanson d'amour, Soleil.
Je vis au firmament. le sort et le mauvais œil tomberont sous les coups d'un soleil.
Clara Isée sur RFI et sur l'album de Thomas de Pourquerie, Let's the Monster Fall. J-100 pour les Jeux de Paris et plongé dans les archives de ces Jeux, grâce à vous, Louis Chevalier, et votre livre Les Jeux Olympiques de littérature. C'est un livre très fouillé, très documenté, plein de surprises. Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces infos, toutes ces archives? On les trouve où, les archives, à la fois des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques de littérature?
Écoutez, ben, c'est vrai que j'ai essayé de faire un livre qui soit un livre avec beaucoup d'anecdotes et puis un livre un peu drôle parce que c'est un sujet drôle. Franchement, on le voit tout de suite lorsqu'on parle de mettre des épreuves d'art et de littérature aux Jeux Olympiques. Il y a quelque chose qui se passe qui paraît paradoxal. Eh bien, écoutez, je suis allé à Lausanne, au Centre d'études olympiques. Je suis allé aux archives diplomatiques. J'ai fouillé les journaux de l'époque. On trouve peu de choses, ce qui montre bien d'ailleurs hein, que c'est pas qu'on a cherché à escamoter ce raté, mais d'une certaine façon, c'est pas une mémoire qu'on a souhaité préserver. Oui, donc vous faites beaucoup de lectures, évidemment, puis vous croisez les choses. Un travail de recherche classique.
Et vous écrivez ce livre qui raconte donc ces jeux de littérature, mais aussi cette précédente Olympiade parisienne en 1924. Donc on est à 100 jours de l'édition de 2024, mais on est à 100 ans de cette seconde Olympiade. Vous dites qu'en 1924, le sport a changé de statut. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une telle bascule à ce moment-là?
Oui, il y a vraiment un changement dans les années 20. C'est un changement qui est lié aux États. Après la Première Guerre mondiale, les États, et que ce soit les démocraties ou les dictatures, se rendent compte de l'importance du spectacle sportif pour pouvoir parler aux foules. Je parle spectacle sportif parce que je trouve que la distinction est importante. Les Jeux Olympiques, c'est du sport pour quelques milliers d'athlètes. Pour les milliards de personnes qui les regardent, c'est un spectacle. Et c'est en tant que spectacle qu'il faut l'analyser. En tout cas, c'est à ce moment-là que les États commencent à investir massivement, notamment dans les Jeux Olympiques. Et puis que nous avons vraiment... Alors, on avait déjà quelques stars sportif avant la guerre, mais comme le raconte l'un des jurés, c'est ce moment où on commence à se retourner sur les sportifs dans les cafés, alors qu'avant on se retournait sur Joffre ou Marie Curie. C'est-à-dire que le sportif commence à avoir un statut à part. C'est une chose aussi qui m'intéressait, c'est de se rendre compte à quel point la littérature était centrale à l'époque. Lorsque on parlait de Monterland, Monterland est lu par à la fois Poincaré, le président, mais aussi par les sportifs. Vous avez un moment où ce livre, le paradis à l'ombre des épées, qui est la première partie de ces Olympiques, c'est un livre dont on va discuter dans l'auto, l'équivalent de l'équipe. Le buteur de l'équipe de France de l'époque, Nicolas, va parler de ce livre.
Et ce qui est étonnant, c'est que les auteurs, les écrivains s'intéressent au sport et aux Jeux Olympiques, peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, Pierre Coubertin les courtise aussi avec ses Olympiades culturelles, parce qu'il a besoin du soutien des écrivains qui ont pignon sur rue, qui ont une opinion, une importance peut-être plus importante et plus considérable qu'aujourd'hui. Mais spontanément, les auteurs s'intéressent au sport.
Alors oui, c'est aussi une nouvelle génération. Alors on le voit bien chez les jurés, il y en a quelques-uns qui sont restés presque, non pas allergiques à l'idée sportive, mais Paul Valéry, il y a peu de traces dans son œuvre, il y a peu de traces de sport. Par contre, Monterland, c'est vrai que ça va devenir central et on a un engouement. En 1923, en 1924, un engouement éditorial. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur le sport. Vous me direz, c'est comme maintenant, on va avoir beaucoup de livres. Moi, je sors un livre parce qu'il y a les Jeux Olympiques, c'est une opportunité. Donc, vous avez à avoir Marcel Berger, par exemple, qui va sortir un livre sur le rugby. Vous allez avoir voilà, une floraison de livres sportifs qui sont tous oubliés, à part un peu les Olympiques de Monterland, mais tous ont disparu.
Et puis, il y a aussi Jean Giraudoux, qui est un personnage très important dans ces années-là, aussi bien pour la littérature que pour les Jeux Olympiques, qui consigne des maximes dans un petit livre de 1926 qui s'intitule « Le sport ». Alors, Jean Giraudoux, il faut dire que c'est un auteur de théâtre emblématique dans les années 20-30 et qui a donc joué un rôle aussi essentiel dans les Jeux français, puisqu'il était conseiller de Coubertin et qu'il a été aussi commissaire général à l'information en 1939. Ça, c'est une situation et une position pour lui qui a été un peu plus compliquée.
Qui n'est pas à quelques degrés athlète, traîne piteusement dans la vie le corps d'un autre.
Il est une série de malaises qui n'ajoutent rien à l'âme, d'incommodités physiques de second ordre qui n'exercent en vous aucun grand sentiment. C'est cela que le sport élimine.
Faites défiler les vieillards d'un pays et vous connaîtrez l'état de ses sports.
Il n'est pas rare qu'un non-sportif et un sportif meurent de même âge. Mais celui-là a vécu en état de conservation et l'autre en état de vie.
Tu te trompes en croyant entretenir ta santé par la seule marche, facteur qui ne distribue aucune lettre.
Le sport délimite notre corps de la masse terriblement vague des autres corps. C'est ce que fait pour chaque esprit l'exercice de la pensée.
Quelques maximes de Jean Giraudoux consignées dans son livre « Le sport » de 1926. Louis Chevalier, il faut rappeler que Giraudoux était un sportif aussi, mais il y a quand même une dimension, on l'entend là dans ces quelques maximes, une dimension quasiment eugéniste chez lui, parce que l'homme doit être un sportif, c'est toute une époque qui exalte le corps et qui va donner aussi la statuaire nazie qui exalte les corps parfaits et puis les Jeux de Berlin de 36, non ?
Oui, alors Giraudoux, en fait, dirige le service des œuvres à l'époque au Quai d'Orsay. Donc, en effet, il a un rôle central dans l'organisation des Olympiades. Enfin, peut-être pas central, mais vraiment important parce qu'il se retrouve en relation avec les comités des différents pays qui vont participer aux Jeux. On a des lettres de lui à Claudel aussi, qui est au Japon à l'époque, pour diffuser la bonne nouvelle de ses concours d'art et de littérature. C'est vrai qu'il y a, et on parlait de dictature et de sport, il y a évidemment un rapport à l'époque du sport avec une certaine vision viriliste et surtout excessive du corps. Si vous voulez, j'ai toujours du mal à faire le lien directement parce que c'est un peu comme la littérature. On parlait d'Annunzio. Moi, il me semble que le fascisme est en partie une invention de poète. Je pense que le sport, comme la littérature, ça peut apaiser ou exciter selon les êtres et les moments. Et il y a la littérature de la haine, il y a une littérature au contraire de l'amour. Les deux peuvent être de très bonne littérature et c'est un peu pareil pour le sport. C'est vrai que beaucoup de personnages qui organisent ces jeux vont faire les mauvais choix ensuite, ça c'est certain.
Ils vont faire les mauvais choix, ils sont très 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 à droite pour la plupart, mais l'époque a changé aussi. Ils sont aussi très misogyne. Quand on lit Coubertin, c'est absolument effrayant de misogynie et de racisme aussi.
Oui, alors l'époque est raciste. Coubertin est d'une misogynie qui est vraiment supérieure à, même à celle de l'époque. Hein. C'est un puritain, hein, Coubertin. Faut imaginer que lorsqu'il était un peu plus jeune, on a installé une sculpture de Rodin tout près dans sa rue, près de sa rue, et c'était un nu féminin, et donc il a poussé les hauts cris, il a cherché à faire disparaître cette sculpture. C'est vraiment quelqu'un qui a un rapport puritain au sport, au corps, et pour lui, le sport féminin est vraiment le comble de l'horreur. Hein. Il y a en effet des textes où il explique que rien n'est plus laid qu'une femme sur une luge, parce qu'une femme, les jambes écartées sur une luge, vraiment totalement impossible. C'est vrai que les textes sont assez étonnants lorsqu'on les lit aujourd'hui. On ne peut pas juste dire que c'est l'époque, hein, je pense. Et puis, c'est vrai que lorsqu'on lit la presse de l'époque, que ce soit en effet sur les femmes, mais aussi dans le racisme, il y a des choses sur Battling Siki qui a battu Carpentier. Il y a des choses étonnantes.
Grand champion de boxe sénégalais.
Grand champion de boxe. Vous avez des textes où on explique que il faut interdire les combats entre noirs et blancs parce que les noirs ont une tête plus solide parce qu'il n'y a rien dedans. Enfin, des textes ahurissants à lire, même aujourd'hui. C'est une autre époque. Hein.
Louis Chevalier, spécialiste des Jeux Olympiques, je vais vous présenter une autre spécialiste, c'est Lucie Bouteloup. Elle tient une chronique sur RFI, les mots des JO. Mais Lucie, c'est aussi la puce.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
J-100 pour les Jeux Olympiques, cela vous inspire quoi ?
Eh bien les Jeux, c'est l'occasion de parler des athlètes qui se tirent la bourre, Pascal.
Oh, quelle jolie expression.
Se tirer la bourre, donc c'est une expression qui ne tient qu'à un poil de...
Bah,
roulement de tambour.
Je n'ose pas y penser.
On attend encore quelques instants avant les explications d'Edouard Trouillet, mais avant, comme d'habitude, les explications...
Des enfants.
Tirer la bourre, ça veut dire se casser la tête un peu, enfin, s'embêter beaucoup dans ce que tu fais. Parce qu'on va dire, quand tu dis t'es à la bourre, t'es en retard, donc ça veut dire ouais, c'est pas bien. Du coup, se tirer la bourre, ça veut dire s'embêter, enfin, se galérer dans les choses.
Bourre, bourré. Du coup, se tirer la bourre, c'est boire beaucoup d'alcool alors.
Tu bois et tu te réveilles le matin. Là, tu dis je me suis tiré la bourre hier. Ça veut dire hier, j'ai beaucoup bu quoi.
Moi, ça me fait penser à bourgeois. Bourge, donc se tirer la bourre, c'est être radin. Parce que t'as la bourre. Et tu la tires, ça veut dire que tu veux pas la partager, tu gardes ta bourgeoisie.
La puce à l'oreille.
Bonjour Edouard Trouillet.
Bonjour Lucie.
Alors on l'a entendu, pas si simple pour les enfants de comprendre cette expression « se tirer la bourre ».
Alors c'est une expression effectivement qui est déjà un peu ancienne, hein, qui date du 19e siècle et qui signifie « se mesurer à son adversaire, lutter pour la première place, combattre âprement ».
Rivaliser avec vigueur quoi.
Voilà exactement, essayer d'obtenir la victoire.
La bourre, peut-être qu'il faut préciser l'orthographe de ce mot.
Oui, c'est un mot qui s'écrit BOU2RE et qui vient du latin bourra. C'est une étoffe grossière et le mot bourre en français, ça désigne d'abord les déchets d'une fibre, ça peut être de la laine ou de la soie.
Et puis de la laine à la soie, on passe au poil d'animal.
Voilà, puisque l'un des sens spécialisés du mot bourre, c'est amas de poils détachés avant le tannage de la peau de certains animaux et qui servait au rembourrage de certains objets et dans la fabrication du feutre.
Mais alors, quel rapport avec la concurrence ? Comment est-ce qu'on passe du poil de l'animal ou de l'amas de fibres à cette notion justement de concurrence ?
Eh bien, tout simplement parce que le mot bourre a pris un sens un peu plus spécialisé dans le domaine de la vénerie, c'est-à-dire de la chasse à courre. Il désigne un amas de poils arrachés par les chiens de chasse quand ils attaquent leur proie.
C'est-à-dire qu'on imagine deux chiens qui sont en train de courser un lièvre, par exemple, et qui finalement arrivent à s'en saisir en attrapant dans leur croc des petits bouts de poils juste avant peut-être de saisir cette proie, quoi.
Exactement. Le chien qui attaque la proie arrache des bouts de poils en mordant
à la proie, donc on est dans une métaphore quand même un petit peu violente.
Et donc ces chiens se tirent la bourre, c'est-à-dire à qui attrapera le premier cette proie.
Voilà, exactement.
Alors je me posais la question, est-ce que se tirer la bourre, est-ce que cette expression a quelque chose à voir avec le fait d'être à la bourre?
Eh bien oui.
Pour dire qu'on est en retard.
Eh bien oui, tout à fait, puisque le mot bourre a donné le verbe bourrer, qui dans le sens de la chasse a signifié courir après un lièvre en parlant d'un chien, et qui ensuite a pris le sens qu'on connaît, se presser, aller très vite. Et le verbe bourrer a donné lui-même un nouveau mot bourre, donc c'est ce qu'on appelle un déverbal, et c'est un nom qui provient d'un verbe, et qui apparaît dans cette expression être à la bourre, qui signifie être en retard.
Rien à voir avec le fait d'être bourré, pour dire qu'on est ivre.
Eh bien si, un petit peu quand même, puisque bourrer, ça signifie... remplir.
Cette fois-ci, on est plein de liquide.
Voilà, cette fois-ci, on est plein de liquide. Et le mot bourru aussi a un rapport avec bourre et bourré, puisque quelqu'un de bourru, c'est quelqu'un qui est aussi grossier que l'étoffe qui est désignée par le mot bourre.
Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de synonymes à cette expression, se tirer la bourre. On est en concurrence, on rivalise. On est en compétition.
Voilà, j'avoue que je n'ai pas trouvé non plus d'expression synonyme. Et c'est pour ça qu'on la trouve encore beaucoup, notamment dans des articles de journaux.
Dans les articles de journaux, mais pas que. C'est une expression qu'on retrouve encore très régulièrement dans le langage courant.
Oui, oui, qui est encore très utile.
Alors, les Espagnols ne se tirent pas la bourre. Ils sont aux cheveux. Quand les Américains sont tête contre tête, on imagine tout de suite une lutte, comme probablement les chiens luttaient les uns avec les autres pour justement attraper ce petit poil de peau de lapin avant de le manger. Merci, Édouard Trouillet, d'être venu dans la puce. Heureusement, pas de cheveux ni de bourre entre nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Vous pouvez réécouter cette chronique ainsi que toutes les précédentes sur le site de RFI, mais aussi sur celui du France FM. Facile et bien sûr sur les réseaux sociaux. À très bientôt.
Merci Lucie.
Merci Lucie. Louis Chevalier, question finale, question fatale. Vous qui êtes poète, qui avez été éditeur, qui êtes journaliste, vous participeriez à une épreuve de littérature au JO si elle existait encore, sachant qu'il y a eu des tentatives. Hein, en 1968, par exemple, vous racontez qu'on a tenté de refaire ça.
Oui, on a invité surtout beaucoup de poètes prestigieux à l'époque. On s'est dit, mieux vaut déjà avoir des valeurs sûres que essayer de recruter de jeunes gens. Oh, moi, je suis partant, évidemment que je suis partant. Ou comme juré, j'estime avoir suffisamment d'expérience maintenant.
Mais est-ce que ce livre est un plaidoyer pour la littérature cet été pendant les JO?
Ah, moi, je pense que, si vous voulez, c'est important. Oui, c'est un plaidoyer pour la littérature, parce que moi, j'aime la littérature. Je trouve que, si vous voulez, on se rend bien compte, et ce n'est pas grave que le sport ait pris une telle place dans la société. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 30, Cocteau est plus célèbre que son ami, son amant, le boxeur Panamá Brown. Aujourd'hui, quel écrivain est aussi célèbre que Messi? Bon, on peut espérer un petit rééquilibrage.
Alors en tout cas, votre livre est plein d'anecdotes, j'en avais noté plein, mais le temps presse. L'une qui m'a fait le plus sourire, c'est en 1924, donc, c'est le cyclisme qui est une des épreuves reines de ces JO, et Rémy de Goncourt, l'un des frères qui a donné son nom au prix Goncourt, s'oppose au terme cycle, bicycle ou tricycle, car il considère qu'ils sont trop grecs. Donc on ne lutte pas contre les anglicismes à l'époque, mais contre la grécitude.
Oui, alors en fait, c'est un peu avant, c'est Gourmont qui en effet dit, et je pense que c'est vrai, qui explique qu'il y a une arrivée massive de termes forgés à partir des langues anciennes pour toutes les nouveautés de la modernité, et que c'est en train de détruire la langue. Il donne, alors il y a l'exemple que vous citiez, cycle au lieu de bécane, mais il dit pourquoi ophtalmologue plutôt que œilliste? Hein, œilliste, plus simple à mettre dans un verre.
Bah bien sûr. Merci, c'est une des anecdotes de votre livre. Merci Louis Chevalier. Les Jeux Olympiques de littérature est édité chez Grasset. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. N'hésitez pas à écouter cette émission en podcast et sur la plateforme Pure Radio. À demain.